Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur le podcast de Blooming You, ce magnifique podcast, et j'ai le droit de le dire. Je m'appelle Jeanne Thiaud-Fachin, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute, fondatrice des centres Cogitose, et je suis une grande passionnée de lecture. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, je lis et je lis encore. Donc j'ai créé cette émission Mes livres bien-aimés parce que j'avais envie, besoin de partager et d'aller à la rencontre des auteurs qui m'ont fait vibrer. Donc quand j'ai aimé très fort un livre, eh bien, je fais en sorte de pouvoir recevoir cet auteur et de les recevoir toujours avec mon regard de psy finalement, parce que tout est psy dans la vie, donc que ce soit des écrivains, des romanciers, des essayistes, qui soient des auteurs plus légers ou des auteurs très graves, ce qui m'importe c'est toujours cette matière de la vie qui va venir toucher au creux de nous et nous faire vivre une expérience intime. Moi, c'est ça que j'aime avec les livres. C'est pas juste l'histoire qu'on raconte. Donc aujourd'hui, évidemment, j'ai la joie de recevoir l'immense romancier, auteur de mille et une choses merveilleuses, Didier Van Cauwelaert, aux multiples prix, dont le plus prestigieux, le prix Goncourt. Mais il en a eu tellement avec et plus de 5 millions de livres vendus à travers le monde. Enfin, moi, je suis une fan totale de Didier Van Cauwelaert. J'ai lu tous ses livres depuis le premier. Je peux les relire régulièrement. Donc, je suis très heureuse de partager avec Blooming You cet amour que j'ai pour Didier Van Cauwelaert. Et vous pouvez intervenir, bien évidemment, sur ce podcast. Bonsoir tout le monde, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver ce soir pour la deuxième émission de Mes livres bien-aimés. Et je suis tellement honorée, Didier, de vous avoir ce soir avec nous. Alors c'est évidemment extrêmement compliqué de présenter un homme comme vous. Vous êtes un immense écrivain avec des dizaines de prix, dont le plus prestigieux, le prix Goncourt en 1994 pour Un aller simple. Mais vous en avez eu tellement d'autres, mais vous êtes aussi un auteur de BD, un auteur de théâtre. Vous avez fait mille choses depuis très longtemps et vous allez nous parler de tout ça, bien évidemment. Et puis, bon, bien évidemment, vous êtes traduit dans toutes les langues ou presque, plus de 5 millions de livres vendus à travers le monde. Enfin, c'est très compliqué de vous présenter et c'est très émouvant pour moi, en réalité, de vous avoir ce soir avec nous. Et puis, j'ai eu envie, c'est pas tout à fait le thème, mais j'ai quand même eu envie de faire un pas de côté et de parler aussi de cette littérature ou de ces essais que vous avez produits et qui nous raconte comment finalement il faut aller au-delà du visible pour pouvoir vivre dans notre humanité et que nous sommes tous reliés. Et quelle erreur de penser qu'on est des êtres isolés et que c'est dans cette connexion que la vie peut exister. Alors, ce soir, on va parler de celui-ci, de livre. Donc, la bienveillance est une arme absolue, avec ce titre si puissant et si fort et un livre absolument incroyable. Alors c'est vrai qu'on a, en tout cas j'ai envie d'aller vers l'homme derrière l'œuvre, parce que c'est l'histoire de votre vie, c'est l'histoire de la vie à travers la vôtre, à travers votre sensibilité, à travers votre regard, à travers vos expériences de vie, sous ce filtre de la bienveillance, bien sûr, puisque c'est le thème de ce livre. Et toute votre œuvre est marquée par cette quête d'identité, de comprendre finalement qu'est-ce qu'on fait là, qui on est, à quoi sert tout ça, et à repousser toujours un peu plus les frontières pour aller chercher encore et encore derrière. Et puis vous allez nous parler de l'intelligence en général, mais aussi de l'intelligence des animaux, de l'intelligence des plantes, de l'intelligence des bactéries, toutes ces formes d'intelligence, parce que finalement vous êtes un explorateur insatiable et finalement vous êtes surtout un thérapeute de nos âmes, on peut le dire comme ça?
Oui, modestement, disons que, qu'est-ce que c'est que la bienveillance? Revenons à l'étymologie, ça veut tout simplement dire vouloir du bien.
Et la bénévolence.
Ouais, et la grande erreur que font souvent les gens quand ils emploient votre bienveillance dans un esprit de mièvrerie, comme si tout à coup c'était croire qu'on fait partie d'un monde de bisounours où il suffit d'être gentil. Regardez le côté péjoratif qu'a pris le terme gentil, même dans la prononciation. Oh, il est gentil, elle est gentille. Alors qu'on se rend compte d'abord que lorsqu'on fait quelque chose pour quelqu'un, comme quand on fait un cadeau, une chose aussi simple, vous faites un cadeau, vous faites plaisir à vous-même, avant même que la personne soit touchée par l'intention que vous avez, la préparation de cet acte-là, vous rendez compte que ça fait vibrer en vous des choses essentielles qui sont la prise de risque. Est-ce que ce cadeau, cette intention que vous avez, va tomber juste? Est-ce que ça va parler du sentiment que vous avez? Est-ce que ça va correspondre à la personne? Est-ce que ça va... Il y a toute une préparation où vous êtes branché sur l'autre, mais en étant branché sur l'autre, vous analysez en même temps vos sentiments à son égard. Votre identité dont vous parlez, qu'est-ce que c'est l'identité? C'est pas tourner autour de son nombril en forant plus loin possible pour avoir des réponses. Non, c'est du rayonnement, c'est l'empathie, c'est essayer de comprendre comment fonctionne l'autre, comment on peut fonctionner en accord avec lui. Et puis vous parlez d'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Revenons encore à l'étymologie.
Interligéré.
C'est interligéré, c'est-à-dire c'est créer des liens entre les choses. Mmh. Et c'est la même étymologie d'ailleurs qu'il y a dans religion.
Absolument.
C'est montrer que tout est lié. Et lorsque on a oublié ça, créer des liens, c'est-à-dire refaire des interfaces,
refaire des connexions en réalité, finalement, de revenir à cette unité dans laquelle...
De se rappeler qu'il n'y a pas d'individu tout seul, coupé
Jamais. Du
monde, coupé de l'environnement. Je déteste ce mot parce que c'est un mot
oui. Beaucoup
trop prétentieux. On a l'impression qu'il y a l'être humain et puis l'environnement, ce qui l'environne comme un décor, alors qu'il procède de cet environnement. Il est né de ce qu'il appelle l'environnement. Il en est parti. Quand on voit... Ça, c'est vrai que j'évoque dans le livre, je prends la bienveillance à sa source première.
Mmh.
C'est-à-dire qu'on se rend compte que lorsque il y a plus de 4,5 milliards d'années, la vie est apparue sous d'abord une forme de bactérie, d'être unicellulaire. Au début, c'était juste un recopiage. La vie c'était le clonage, donc c'était une photocopie de cette première forme de vie. Et en même temps, c'était immortel. Mais quel intérêt? Et là, à ce moment-là, il y a eu le premier acte, je pense, je ne veux pas me tromper dans l'interprétation, mais le premier acte de construction de l'évolution a quand même été un acte de bienveillance au sens premier, c'est-à-dire quand deux êtres différents ont décidé de faire ce qui s'appelle la symbiose, c'est-à-dire de se mettre en commun,
de s'unir,
des choses différentes, de manière à aller plus loin dans l'évolution et donc d'abandonner le clonage, donc ce système de photocopie, pour ce qui est aujourd'hui encore le mode qui a gagné, c'est-à-dire la reproduction sexuée et donc la mort, mais donc l'échange, l'amour, la biodiversité et la mobilité. Donc ça, c'est vouloir du bien à l'autre, en espérant qu'il va vous en faire aussi. C'est ce pari, justement, de l'accroissement des connaissances, des expériences et des échanges. Donc, si on oublie d'où vient l'histoire du monde, l'histoire de la vie, donc notre histoire, on est évidemment des espèces de créatures paumées qui essaient de se rassurer avec de faux liens, qui sont des liens aujourd'hui artificiels, qui peuvent apporter en même temps de la sincérité, mais qui sont nés de ce manque, de cette perte de l'appartenance à tout.
Qui sont
les réseaux sociaux, qui sont l'affirmation de soi à travers ses sentiments, à travers sa haine, son rejet des autres, tout ça. Mmh. Tout ce que notre intelligence, à force de cesser d'être naturel pour se vouloir artificiel, à créer comme palliatif.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a oublié d'une certaine façon qu'on était tous un et qu'on était tous reliés les uns aux autres. Et finalement, on s'isole. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notre monde ce dont ils souffrent le plus, c'est de solitude, malgré cette hyperconnectivité de l'environnement, et presque cette fois-ci, on peut le dire.
Il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, quels sont les remèdes qui semblent le plus efficaces à ce sentiment de solitude, d'isolement, ce sont les animaux et ce sont les plantes. Et parce que le grand problème qu'on a aujourd'hui, et moi qui fais beaucoup dans les écoles, ça où je, c'est cette forme de timidité nouvelle qu'ont installé les rapports virtuels et les rapports
à distance,
sans se connaître, sans se mettre en représentation physique, donc et qui fait que on a des gens qui ont beaucoup de mal après à créer ce que nos générations apprenaient sur le tas, c'est-à-dire oui la confrontation sociale brutale, mais en même temps d'où naissaient les anticorps nécessaires. La bienveillance dont je suis issu, comment je l'ai découverte, c'est à travers le harcèlement moral à l'école.
Oui, mais c'est ce que vous racontez dans votre livre, hein, c'est-à-dire que finalement, vous, la bienveillance, c'est comme Obélix. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit.
Mais je ne suis pas tombé dans quelque chose.
Non, mais c'est parce que quand même, non, bien sûr, mais quand même, vous racontez bien votre père, René, qui a été très présent tout au long de votre parcours et vous dites qu'il avait presque la bienveillance incarnée.
Sa bienveillance était le produit de toutes les trahisons, de toutes les souffrances, de tous les événements qui normalement cassent les autres, qui avait composé sa vie, son naturel, son humour, sa générosité. Donc évidemment, ce modèle-là de bienveillance, je l'ai validé très tôt. Et puis je l'ai utilisé, je l'ai expérimenté quand justement je grandissais à Nice avec un nom belge, une tête de belge et qui supportait pas le soleil. J'étais un peu le métèque du coin. Et dans ce cas-là, de solution, vous essayez de faire couleur locale pour être
intégré,
accepté, toléré. Ou alors vous cultivez votre différence en disant non, je ne vais pas vouloir être comme les autres.
Oui, mais vous n'aviez pas comme différence quand même. Vous étiez particulièrement précoce, surdoué, avec ce talent d'écriture très jeune.
Non, c'est uniquement l'imaginaire, mais je n'ai pas.
Oui.
C'est-à-dire que très tôt, j'étais un travailleur de l'imaginaire. Mais comme les mômes qui ont cette passion précoce de vouloir être pianiste, footballeur, tennisman, pompier et aviateur. Bon, aviateur, c'est plus compliqué, mais le reste, vous pouvez le faire très vite.
Oui, mais c'est ce que vous racontez aussi avec votre prof de sport graphique,
oui, donc,
c'est ça?
Si vous voulez, ce qui est important, c'est de se rendre compte à un moment donné que vous pouvez pratiquer le rapport de force quand vous êtes à un, contre deux, quand vous avez quand même 20 ou 30 personnes qui ont décidé de se désennuyer en vous tombant dessus, vous n'avez aucune chance par les armes de l'adversaire. Donc là, en revanche, quand vous expérimentez autre chose, et c'était vraiment ma découverte physique du pouvoir de la bienveillance, quand j'avais 8 ans, c'est-à-dire que oui, j'avais commencé à écrire et j'avais confié ça à celui que je prenais pour mon meilleur copain à l'école, et puis qui s'était empressé d'aller raconter ça à la bande des autres pour ça. Se foutent de moi. Et puis un jour, l'instituteur a la mauvaise idée de dire, expliquer ce que c'est un écrivain, un artiste, et de dire que souvent, ils connaissent la gloire après leur mort. Alors là, à la sortie de l'école, les autres se sont mis à courir après, à me balancer des pierres en disant, genre, on va accélérer ton accession à la gloire. Quoi. Et moi, comme un con, j'ai mon cartable où j'ai mon manuscrit. Je me déplace jamais sans. Dès que je peux, je travaille. Et au lieu de me protéger avec, je protège. Donc, je prends une pierre dans le crâne et naturellement, c'était mon meilleur copain. C'est lui qui a mis je sens la pierre, je tombe sous le coup. Je pense que ça se met à saigner, évidemment. Le crâne, ça saigne très vite. Et la panique sur les autres. Tout le monde se sauve, sauf lui qui s'approche et qui, d'un coup, je prends conscience de ce que c'est que l'effet de meute. Il a fait comme les autres pour lui être accepté, être intégré. Et là, il se rend compte que c'est lui, c'est sa blessure. Je suis par terre. Et là, il me dit, je t'emmène à l'infirmerie. Et là, je m'entends lui répondre cette chose qui m'étonne sur moi. Je lui dis, casse-toi ou je te dénonce. Parce qu'il y a à la fois une réaction de... Il y a de la souffrance, il y a de la... il y a de la fierté.
Fierté, c'est
blessé.
Ça, oui.
C'est-à-dire qu'en plus, il ne va pas m'amener à l'infirmerie. Donc, et je sens là que je reprends une forme de pouvoir sur la situation. Et évidemment, ils ont tous peur que je les dénonce. Et là, je rentre chez moi, j'en parle à personne. Je rentre chez moi en pissant le sang. Et quand j'arrive, ma mère me dit « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et je lui dis « C'est un pot de fleurs mal fixé qui m'est tombé sur la tête. » Alors, elle ne me croit pas un instant. Quand mon père rentre du bureau, elle lui dit il s'est fait attaquer, fais-le parler, tout ça. Et mon père essaie, mais mon père connaît ça. Il avait eu ça à mon âge aussi. Il voit très bien que je couvre quelqu'un pour l'argent, que j'ai raison de faire ça. Donc, on dit « T'inquiète. » Et pourquoi je fais ça? C'est que j'ai vu ce gars penché sur moi, qui était mon agresseur. J'ai vu ce changement de comportement. Alors, il y avait la peur, il y avait le remords. Et ce travail qu'il avait commencé. Et je me disais, si je dénonce les autres, ils vont être renvoyés, il y aura des sanctions et tout ça. Et je n'aurai plus de copains, je n'aurai plus... Est-ce que c'est ça que je veux? Non, j'ai envie de retrouver ce lien que je croyais être un lien d'amitié sincère et tout ça. Et le fait, j'emploie pas évidemment, je ne sais pas que je fais de la bienveillance là, que je veux du bien à lui comme à moi-même. C'est-à-dire que je réagis à l'agression de l'adversaire avec d'autres armes, avec une arme qui désarme. Et là, le lendemain, en arrivant, je ne dis rien. Et là, je deviens le roi du monde. Et ce rapport, et ça vraiment, ce sont des expériences qui vous marquent définitivement, parce qu'après... Toutes les autres expériences, quand vous savez que cette arme-là...
Quand vous l'avez ressentie, surtout, quand vous l'avez ressentie profondément. Mais néanmoins, vous avez eu cette capacité à dézoomer. C'est-à-dire qu'il y a eu cette capacité à prendre du recul par rapport à la situation et finalement à adopter une posture...
C'est très juste le mot de l'idée de dézoomer, vous avez raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la faculté d'empathie que nous avons tous au départ, mais que... l'éducation, les sociétés, l'image des autres, le rapport de force a tendance à effacer de notre personnalité.
L'empathie étant évidemment cette capacité à ressentir les émotions des autres.
À ressentir les émotions des autres, à ressentir, avoir mal de ce qui leur fait mal et en même temps à leur transmettre nos émotions, nos intentions,
cette connexion, ce sont les neurones miroirs de toute façon qui nous permettent d'être synchronisés.
Voilà. Or, tout notre organisme est conçu pour ça.
Bien sûr.
Donc, vous avez raison de parler de ces neurones miroirs qui, aujourd'hui, personne n'y croyait, puis maintenant, on sait que ça fonctionne comme ça.
C'est-à-dire qu'on est branché au sens propre du terme. Oui, on est sur la même longueur d'onde.
Mais nous sommes même, allons même plus loin que l'idée de longueur d'onde, sur le même diapason. Mmh. C'est-à-dire que ça vibre. C'est très, très bien... quel niveau ça vibre, et ça vibre de la même manière avec les animaux,
et avec
les plantes. Donc, si vous arrivez à vous reconnecter à ce champ vibratoire, et votre vie change totalement. C'est-à-dire que les animaux viennent vers vous, je ne dirais pas que les plantes viennent vers vous, mais simplement, avoir la main verte, c'est quoi? C'est avoir su transmettre à la plante l'information qu'on la comprend, on est à son service. On a envie qu'elle soit belle, on a envie qu'elle nous donne du plaisir, qu'elle nous donne. Et là, on se rencontre. Et moi, je raconte plein d'expériences scientifiques absolument indéniables qui prouvent que on peut faire pousser les plus beaux, les plus grands légumes et les meilleurs.
Mais vous racontez l'histoire de ce paysan mexicain qui gagne tous les concours en faisant pousser.
José Carmen, oui. Absolument. Ça fait 40 ans et il continue encore aujourd'hui. Il forme plein de gens. Et c'est les plus grands, les plus forts, les plus résistants, les plus beaux et les meilleurs légumes et fruits de la planète. Et ce type, évidemment, qui est mexicain au départ, qui est un paysan illettré en ce qui concerne le langage humain.
Oui.
Parce que parler aux plantes, il connaît.
Il sait faire.
Et il obtenait de tels résultats. On lui dit, mais comment vous faites? Vous employez des engrais, tout ça. Non, même pas d'eau, pas besoin. Uniquement... de la pensée, d'amour, de gratitude, d'échange, et des compliments. Les plantes sont sensibles aux compliments aussi. Et alors, il a été testé par le ministère de l'Agriculture. Il a été testé, on l'a changé, on s'est dit, peut-être ça marche sur son territoire, il y a quelque chose dans son sol. Donc, on l'a amené dans les endroits les plus arides qui existent. Il est arrivé partout au même résultat. On l'a testé chez nous aussi, au Muséum d'Histoire Naturelle, où on a prouvé que, en plus, les qualités gustatives outre la taille et la résistance exceptionnelle de ces végétaux, les qualités gustatives allaient de pair. C'est-à-dire que ce travail de lien mental, je dirais pas...
De connexion, vraiment.
Mais
de...
réveillé, a montré ses preuves. Alors évidemment, il faut de l'entraînement mental. C'est-à-dire comme il faut de tout pour l'entraînement. Pour écrire, il faut être entraîné. Pour marquer des buts au foot, il faut être entraîné. Pour être un grand pianiste, il faut faire ses gammes. Alors, il y a quelque chose d'encore plus simple, si on veut, puisqu'on parle là des végétaux. Si on ne veut pas faire l'effort intellectuel, affectif, tout ça, tout ce qu'on nous demande, ben vous leur mettez de la musique. Et ça, ce sont les expériences extraordinaires de Joël Sternheimer au CNRS, qui est le premier à montrer, dans la fin des années 70, les années 80 déjà, qu'on pouvait faire pousser des tomates dans le désert, au Sénégal ou en Indre-et-Loire, je sais pas, sans eau, sans engrais, et qu'on avait des tomates qui étaient beaucoup plus résistantes que celles qui étaient faites normalement, simplement en leur diffusant de la musique, mais pas n'importe quelle musique, leur propre musique. C'est-à-dire que la source de la croissance des plantes, c'est essentiellement les protéines. Et les protéines émettent un signal, qui est un signal que l'on capte, et qu'il suffit il suffit d'en faire une sorte de bande originale, quoi, de musique.
De capter le son de la tomate.
Oui, et que vous lui renvoyez ensuite, ce qui permet de, par effet comme ça, de résonance, de l'aider à, en réveillant ses défenses naturelles, ses ressources propres, le travail de ces protéines, de lui permettre de se développer sans apport extérieur d'eau, même la lumière. Il est arrivé dans le noir à des résultats incroyables. Évidemment, ça, si à l'époque, les industriels de l'agroalimentaire s'étaient emparés de ces recherches, la face du monde aurait changé. On n'aurait pas nos problèmes aujourd'hui d'eau, de nourriture, d'érosion des sols, d'empoisonnement de pesticides et d'engrais, tout ce qu'on nous a vendu comme indispensable pour arriver à une agriculture qui fasse reculer la famine et qui nourrisse tout le monde, alors que non, la solution existait, sauf qu'elle ne rapportait rien. Et là, aujourd'hui, qui ce ne serait pas les grands groupes l'agroalimentaire qui aurait tiré bénéfice, ce serait la SACEM, la société des auteurs et compositeurs de musique, qui aurait racheté Monsanto et compagnie. Imaginons, racontons-nous le monde, si vraiment dans les années 80, tout le monde s'était lancé là-dedans. Alors aujourd'hui, comme on est arrivé dans une impasse totale, il faut bien se tourner. Alors on veut chercher des nouvelles solutions. Eh non, il n'y a pas de nouvelles solutions. Il y a les solutions qui ont marché. On sait que ça marche. On n'a plus les moyens aujourd'hui de chercher de nouveaux trucs, miracles. Simplement, oui. il faut une volonté politique, financière,
Et puis, il faut accepter, justement, d'aller vers ce qui paraît extraordinaire. Je sais que vous n'aimez pas le mot paranormal.
Parce qu'il est juste idiot.
Ça voilà, vous dites que la norme bouge
pardon,
tout le temps.
Je reviens encore à l'étymologie. Ça veut dire à côté du normal. C'est quoi le normal? Le normal, ça bouge à mesure que la science fait des découvertes. Donc, au temps de Louis XIV, j'avais dit, on pourrait avoir... dans la nuit, un soleil à l'intérieur de la maison qui marcherait, voilà, c'est pas si pour un fou. Alors que l'électricité existait déjà, il fallait simplement trouver le moyen de s'en servir, inventer les accessoires, inventer les ampoules, les fils électriques.
Pour revenir aux paysans mexicains et en le détournant de ce que vous racontez dans votre livre, de cette expérience étonnante qui a été faite en 2008, je crois, par un grand groupe de meubles.
Oui,
pour Ikea.
C'était Ikea. Alors, ça, c'était au moment...
Mais parce que ça, c'est intéressant pour le harcèlement scolaire.
Oui, pardon, c'est plus récent. Hein, puis c'était il y a deux ans, trois ans, puisque je suis tombé dessus, j'étais dans le... En plein dans les émotions cachées des plantes, oui, c'est ça. Et à partir des travaux de Masaru Emoto, qui c'est ce grand naturopathe japonais...
Qui a travaillé sur l'eau,
celui qui pouvait... Comment on fabriquait des cristaux, enfin, par la puissance de la pensée, qui étaient complètement harmonieux ou qui étaient tout moches, suivant les pensées que l'on émane, suivant la carafe d'eau à côté de laquelle on met cette eau qui va fabriquer ces cristaux. Et si c'est une eau polluée, une eau chimique, tout ça, il n'y aura pas d'information qui se communiquera. Là encore, ça prouve cette interconnexion de tout. Et Emoto lui-même avait mis au point ce système à partir de... C'était tout simple, moi j'aime bien les protocoles tout simples. Il y a des bocaux de riz, un bocal à droite, bocal A et le bocal B. Et on les met à l'entrée des écoles et on demande aux enfants, quand ils arrivent le matin, de dire des mots d'amour au bocal A et puis d'insulter le bocal B à côté. Et on voit très bien que celui qui est à qui on l'a dit « je t'aime, t'es magnifique » et tout ça, se conserve beaucoup plus longtemps qu'il ne devrait, et, tandis que l'autre se dépérit très vite. À partir de ces expériences qui ont été vraiment validées des centaines de fois sur le pouvoir de l'information reçue par tout ce qui est vivant. Et le riz est vivant, tout est vivant, et ce n'est pas le vocabulaire, bien sûr, qui a ces effets-là.
Non, c'est la vibration, en fait.
C'est la vibration. Ah, oui. Et IKEA, au moment pour la journée mondiale contre le harcèlement moral, ça se passait à Dubaï, l'expérience, qui est le pays où il y a le plus de cas de harcèlement dans les écoles morales. Mmh. C'est une ampleur terrible. Mais cela dit, en France, on n'a pas grand-chose à leur envier non plus.
Malheureusement.
Et là, ils ont fait à grande échelle, à part ce même genre d'expérience, avec des plantes, c'est-à-dire plantes A et plantes B, et dans les lieux publics, dans les écoles, et on disait aux enfants, la plante A, tu vas lui dire que tu l'aimes, qu'elle est magnifique, qu'elle te donne plein de joie, et puis la plante B, tu vas lui dire, t'es moche, tu ne sers à rien, tu pues, tu casses-toi, crève, rien à foutre de toi. Et là, les effets ont été absolument indéniables. Et le slogan, tout simple, était de dire, parce que ce qui fait du mal aux plantes, nous fait du mal à nous aussi. Donc et là, les enfants avaient la preuve en 3 jours, comment une plante se détériore et comment une autre est magnifiée par les vibrations mentales qui lui sont envoyées. Alors évidemment, les sceptiques ont dit, ouais,
c'était truqué, IKEA allait arroser la nuit.
On arrose, voilà, la plante complimentée, elle est arrosée, et l'autre n'est pas arrosée. Ouais. Ok. Sauf que là, il y a eu les témoignages après, et puis vérifiés, attestés, des personnes s'occupaient des plantes et qui disaient que oui, parfois il y a pu y avoir quelques différences, mais justement, à tel endroit, la plante qui avait dépéri, c'était celle qui avait été arrosée et pas l'autre.
Oui, donc, c'est là où on voit effectivement tout. C'est un message magnifique.
Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, le réflexe de goguenardise, c'est même pas du scepticisme, c'est de la goguenardise. C'est trop beau, ça ne peut pas exister. Comme si tout à coup on était humilié par quelque chose de trop extraordinaire, de trop merveilleux qui pourrait avoir des
quelque chose qui marche.
Voilà, donc là d'un coup ça devient irrecevable. Irrecevable dans le monde tel que nous l'avons laissé construire et qui est en train de nous tomber dessus. Et cette goguenardise-là fait un mal terrible, pas aux artistes comme moi qui ont cette liberté-là de parle, voilà, c'est suffisamment étayé pour que mon public, voilà, aille se faire sa propre opinion quand il a des doutes. Mais les chercheurs, les chercheurs qui ont besoin de crédit, qui ont besoin d'être notés, et il y a un terrorisme face à tous ceux qui ont des solutions issues de là-dedans. Et vous savez, déjà, entre les chercheurs, la vieille distinction de Gaulle, entre le chercheur et le trouveur. Oui. Donc, évidemment, les chercheurs qui ne trouvent pas, n'aiment pas trop les trouveurs qui... Ils ne passent pas leur temps à chercher parce qu'ils ont déjà trouvé. Donc, voilà, je vous ai parlé de Sternheimer qui, si on l'avait écouté et suivi, qui aurait réglé tous les problèmes que nous avons aujourd'hui avec, une grande partie des problèmes avec nos fruits, nos légumes,
oui,
notre agriculture,
et nos pesticides. Il y a un passage dans votre livre absolument incroyable. Et c'est ça qui est fascinant avec vous. D'abord, vous nous racontez des histoires comme vous êtes en train de le faire là. C'est-à-dire qu'on vous écoute comme si on était un petit enfant sous sa couette. Et on vous écoute nous raconter des histoires. Et vous avez cette magie dans vos livres et cette magie là tout de suite avec nous. Mais et vous racontez aussi une histoire absolument incroyable des rêveurs d'élite.
Oui,
alors... Des 7747, si ma mémoire est correcte.
Alors ça, c'est parti.
Ça, c'est une histoire quand même complètement incroyable. J'aimerais bien que vous développiez cette idée-là.
Parce que celle-là, on est à un niveau, on est à un niveau de crédit international, de vérification de tout ça, puisque c'est organisé par l'ONU. Donc on est au moment d'une guerre entre Israël et le Liban, à la fin des années 80, et un programme universitaire américain est mis en place et contacte l'ONU en disant « Nous proposons d'envoyer sur les lieux de conflit en pleine guerre des commandos de rêveurs d'élite, c'est-à-dire des gens qui sont entraînés. »
Des casques roses.
Ouais, qu'on appelle ça, c'est Jean-François Revel, merveilleux philosophe et journaliste, j'ai la chance qu'il soit mon ami, qui les avait surnommés ainsi dans le seul papier qu'on a écrit dans la presse française, c'est dans Le Point. Et alors ces gens étaient entraînés à se concentrer avec la force mentale qu'il faut sur, bon, c'est une expérience de comme disait Einstein, expérience de pensée, expérience de pouvoir quantique, c'est-à-dire que c'est notre conscience qui crée le monde et qui peut le modifier. Et donc ils arrivent, ces gens, sur les champs de bataille, non pas pour prier pour que la paix revienne, mais pour se réjouir que la paix soit déjà revenue.
C'est ça, oui.
C'est-à-dire qu'ils déplacent là, le curseur de l'espace-temps. Et là, alors ça paraît... puis une idée dingue, sauf que les observateurs de l'ONU ont tous témoigné de ce qu'ils ont vu, de ce qui s'est passé. C'est-à-dire ces gars arrivent là où ça défouraille de tous les côtés, vraiment sur un plein champ de bataille, et ils se mettent en position de... C'est-à-dire, ils ont besoin pour que ça marche, évidemment, de refuser l'information actuelle. Donc, fermez les yeux, rien écouter. C'est presque un casque. Alors, leur casque n'était pas un casque de soldat normal, mais vraiment un casque d'isolation sensorielle, de manière à se placer en dehors de ce contexte-là, avec suffisamment de force pour que ça s'arrête. Et les combats se sont arrêtés. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on demande... Et partout, cette expérience a marché pendant des mois. Et c'est intéressant parce qu'évidemment, on a interviewé les belligérants et on a interviewé aussi
les rêveurs d'élite.
Et là, les belligérants, disons, on se dit, mais pourquoi vous avez arrêté de tirer? Pourquoi? Et là, on se dit, on ne sait pas.
On n'avait plus envie.
On n'avait plus envie. On s'est dit, mais ça mène où? C'est-à-dire, je tire, je le blesse, tout ça, il me tire dessus. Tout à coup, une démobilisation. Et au nom de quoi? C'est-à-dire, il n'y avait plus ce qui fait, en général, ce qui alimente un combattant. Bon,
la niaque de la guerre.
C'est l'effet de meute, c'est l'idéal du combat, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont préparés pour, après on met ce qu'on veut, le patriotisme, le rejet de l'autre, la défense du sol, du mètre carré, tout ce qu'on veut, l'alcool, les stupéfiants, tout ce qui sont les nerfs de la guerre. Et là, tout à coup, il n'y a plus rien qui marche. Donc cette information, ils sont touchés par une information démobilisatrice qui ne s'explique pas et qui chemine. Et quand on interroge, et là, pardon, je fais une petite image qui est ma définition, la première de la bienveillance. Vous rappelez Spirou et Fantasio, le comte de Champignac qui invente plein de trucs formidables à base de champignons. Et il invente un gaz rosâtre qui s'appelle le métomol, qui a la propriété de ramollir tous les métaux. Donc, de transformer les pistolets, les mitraillettes et les chars d'assaut en flaques d'acier rosâtre. Et c'est ça la bienveillance, c'est-à-dire que ça désarme l'adversaire, ça délite les armes, ça ne marche plus. Et c'est ce que ces gens-là ont prouvé sur le terrain.
Au sens propre, c'est-à-dire d'abandonner les armes, finalement.
Même pas, c'est-à-dire que les armes les abandonnent.
C'est ça. Oui, c'est ça.
Plus fort que ça. Les belligérants, et j'ai lu vraiment de dossiers énormes là-dessus, et ce qui revient vraiment dans la plupart des témoignages, c'est pas « j'ai voulu arrêter la guerre, j'ai déposé les armes », pas du tout. C'est « ça m'est tombé des mains », quoi. C'est quelque chose de plus fort qu'eux, je ne savais pas d'où ça venait. Alors, quand on interrogeait les casques roses, eux, ils disaient, non, c'est un boulot terrible parce qu'on est obligé de faire l'abstraction complète. Il faut oublier la lucidité. Parce que si vous arrivez là, au milieu du champ de bataille, vous dites, je vais tout arrêter ça, le minimum de lucidité, vous dites, j'y arriverai pas. Donc là, on est foutu. Donc, il faut vraiment se mettre en isolation. Donc, oublier ce qui est notre système d'évaluation habituel, situation de positionnement et de survie aussi. Donc, oublier la lucidité et puis refuser le lâcher prise. Parce que le moment où, tout à coup, la bataille s'arrête, s'ils se disent, ah ben ça y est, c'est fait, serait le casque. Et bien là, ça repart. Et l'un d'eux a eu cette phrase terrible, dit « Dès qu'on arrête de ressentir la paix, la guerre reprend. » C'est-à-dire, malheureusement, ce n'est pas magique, c'est quelque chose qui s'alimente d'énergie. C'est vraiment une contre-énergie envoyée. Donc, les résultats ont été tellement extraordinaires que ça fait l'objet de communications à l'ONU et de publications dans la revue académique internationale, qui s'appelle le Journal de résolution des conflits, où tout ce que je vous dis a été attesté, prouvé. Alors on se dit, naturellement, ils ont fait l'expérience ailleurs, l'ONU, évidemment, dès qu'il y a une guerre. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les lobbies militaro-industriels n'ont aucun intérêt à financer des groupes de pacificateurs.
Mais ils en ont même extrait
mentaux.
Une équation avec racine carrée.
Voilà, j'en finis là-dessus. Ce qu'a donné malheureusement cette expérience, c'est on a fait le protocole contraire. C'est-à-dire qu'on a, en partant de l'idée que la force mentale a une action sur les conflits, sur l'état mental des combattants, on a envoyé le contraire, c'est-à-dire des gens qui mentalement sont chargés d'attiser la haine, comme il y a les chauffeurs de salle dans les émissions de télé, pas comme chez vous, mais dans les... on a envoyé des chauffeurs de conflits, quoi. Et c'est très facile, évidemment, c'est beaucoup plus facile dans
d'attiser
ce sens-là.
D'attiser la haine.
Donc, malheureusement, on a utilisé ces résultats-là dans l'autre sens, comme ça arrive souvent, hélas. Et puis, l'université de Princeton en a... En étudiant, en modélisant, paramétrant tous ces résultats, on a sorti, en effet, une équation. Il suffit que racine carrée d'1% de la population concernée ressente la paix pour que la guerre s'arrête. D'où à l'échelon planétaire, ça c'est les chiffres que Greg Braden, grand écrivain issu de la recherche spatiale, qui est un des plus grands communicants sur ces pouvoirs réels de l'esprit sur l'univers extérieur, sur l'univers intérieur de notre organisme aussi. Donc il en a tiré ces chiffres, justement, des 7747 personnes indispensables autour de la planète pour que l'équilibre de paix soit maintenu. J'en connais de ces bénévoles-là, des gens qui, à une heure précise, se débranchent de toute activité.
Oui, vous parlez d'un chauffeur de taxi.
Oui, c'est comme ça, c'est les hasards de la vie qui font que, un jour, je suis pris à Paris, je suis chargé par un chauffeur de taxi qui, elle ne se contente pas d'appliquer la prise en charge aux clients, mais aussi à l'humanité. Alors ça aussi, on peut en ricaner, mais ça ne fait que reproduire de manière laïque ce qui était le principe de la prière dans les monastères, c'est-à-dire dans des caisses de résonance comme ça qui, à des moments précis, envoyaient une information. Et on sait que ça marchait déjà comme ça, puisqu'on a des témoignages dans les grottes préhistoriques. On sait déjà que pourquoi tant de représentations d'animaux avant de les chasser, c'était pour créer un lien. Donc, si vous voulez. Depuis que la conscience est en éveil, elle utilise cette préparation mentale, cette connexion mentale. Évidemment, nous avons tellement d'outils à notre disposition aujourd'hui qu'on s'est débranché de tout ça. Pourquoi travailler la télépathie, dont par ailleurs on a la preuve de l'efficacité, alors qu'on a des téléphones, alors qu'on peut se parler à l'autre bout du monde? C'est la loi du moindre effort qui
gouverne. Oui, mais si on appliquait effectivement, si on l'étendait à la guérison, finalement, la bienveillance est une arme thérapeutique extrêmement puissante.
Et là, si vous voulez, je fais état là encore, parce que moi, je ne suis pas un prosélyte, je ne veux pas convaincre les gens, je veux donner à voir, donner des exemples.
Oui, c'est la bonne force, c'est que vous faites en permanence des passerelles avec la recherche.
Que j'ai vérifié, je travaille avec des chercheurs qui ne sont pas des fantaisistes, et certains sont vraiment des gens, vraiment des très sceptiques cartésiens. J'emploie cartésien toujours avec prudence, parce que trop de gens confondent. Ils pensent que cartésien, c'est synonyme de matérialiste, alors que Descartes est le premier qui ait prouvé la puissance de notre état d'esprit mental sur les circonstances extérieures, notamment dans le jeu, puisque Descartes était un grand joueur, et il écrit noir sur blanc, il y a qu'à ouvrir un livre de Descartes et sa correspondance par exemple avec la princesse Palatine, pour voir ses développements sur le fait qu'il a remarqué que lorsqu'il se réveille joyeux, confiant, ça, il gagne. Lorsqu'il est de moins bonne humeur, lorsqu'il a, bien, ou lorsqu'il a peur de perdre son argent, il perd. Et donc, il en tire tout un système, comme Descartes est le premier qui s'est soit intéressé au chaman. Donc, non, Descartes, être cartésien, ce n'est pas être matérialiste. C'est pratiquer le doute méthodique, qui est celui qu'à mon petit niveau, je pratique. C'est-à-dire, la définition du doute, selon Descartes, c'est douter de tout, y compris du bien fondé de ce doute. C'est remettre tout en question. C'est un instrument de travail. Ce n'est pas un but à atteindre.
Non, ça permet de garder...
Pour désinguer ce qui nous dérange et ce qu'on refuse de regarder en face. Donc, voilà, vous parliez de guérison par rapport à tout cela. Le même Greg Braden a diffusé une vidéo tournée dans un hôpital de Pékin où l'on voit des guérisseurs qui travaillent sur une patiente atteinte d'un cancer de la vessie à un stade très important. Et on voit... Il y a l'image échographique en direct. Il y a l'image témoin de ce qu'est au début de l'enregistrement, la vidéo qui dure 3 minutes 50 à peu près. Donc, on a l'image témoin de la tumeur telle qu'elle est. On a l'image échographique en direct. Et on a ces gars qui ont l'air de chanter, de prononcer un mantra devant la dame. Et on voit en direct qu'en 2 minutes, la tumeur se résorbe et disparaît. Et là, on n'est pas dans un trucage, on est dans un hôpital, on a des témoignages de tous les médecins. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, qu'est-ce qu'ils racontent, ces Chinois? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent un truc tout simple. Déjà parti, déjà fini, déjà disparu. La même technique
que les
casques roses, c'est-à-dire se placer dans un futur projeté, improbable, mais on s'en fout.
Ou la maladie n'existe plus, ou
mais
le problème n'existe plus.
Mais il faut simplement dire, c'est terminé, on se place. Donc, on propose une autre information, c'est pour ça que ça agit au sens quantique du terme, une autre information qui va s'imposer. Alors, comment ça se passe? Je suis foutu de vous le dire, évidemment. Mais on a la preuve que ça marche. Alors, évidemment, ça ne marche pas tout le temps, parce qu'il faut un état de concentration, de certitude.
Intense.
Il faut, je pense que, comme pour les casques roses, l'étincelle de doute, la remise en question de tout ça fait que...
Ça fait une bascule.
Voilà, il faut une telle énergie concentrée pour... Mais voilà, on a des expériences qui me passionnent, auxquelles j'ai assisté d'un continent à l'autre, où on demande à un guérisseur, à une heure précise, de se concentrer sur l'endroit où a mal une personne qui n'est pas au courant, qu'on agit sur elle. Et en plus, les étapes du protocole, c'est que la personne est à l'intérieur d'une cage de Faraday, donc qui bloque les ondes électromagnétiques, parce que pour voir si on peut agir à distance, mais est-ce que c'est les ondes électromagnétiques? Si on met une cage de Faraday, donc elles ne peuvent pas entrer, et bien là on observe qu'au moment précis où le gars se concentre sur la zone, sur une photo par exemple, la personne qui peut être à des milliers de kilomètres va ressentir de la chaleur gratuitement comme ça à la zone précise. Donc là on est sur des protocoles plusieurs fois. Donc il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui a besoin de la conviction de quelqu'un. Et pas forcément des deux convictions, puisque ça marche
oui,
quand la personne
n'est pas
au courant. Les pouvoirs de notre esprit, j'ai envie de vous dire, dans le doute, utilisons tous ces pouvoirs-là. Oui, la bienveillance peut arrêter une guerre. Oui, elle peut effacer un cancer. Mais c'est du travail, c'est pas de la magie, c'est pas du paranormal. Demain, on a une petite idée de ce qui se déclenche. Ce sont apparemment les ondes scalaires mises en évidence par Nikola Tesla, les seules capables de passer à travers les cages de Faraday.
Et ça nous permet de faire cette transition avec la bienveillance animale dont vous parlez aussi beaucoup. Et on parlait de guérison et vous nous racontez aussi l'histoire du cheval du docteur Peyo, oui. Ce cheval donc on a vu beaucoup sur
qui va dans les EHPAD et qui va dans les hôpitaux et bon, les images sont extraordinaires, elles sont très très diffusées sur le net et elles apportent quelque chose d'extraordinaire parce que ce cheval qui prend l'ascenseur dans les hôpitaux et qui va avec il a sa charlotte bleue, tout ça, c'est faire dans les petits chaussons bleus des hôpitaux. Il a le système de récupération du crottin et de l'urine, comme ça, évidemment. Oui. Sauf que son accompagnateur dit qu'il ne fait jamais ses besoins quand il est en service. Mais bon, il faut quand même pour les raisons d'hygiène, mais non, il n'est pas. Et là, c'est toujours lui qui choisit la personne, il ne se trompe jamais. C'est-à-dire que la visite est préparée, hein, dans les hôpitaux. Aujourd'hui, il y a une quinzaine d'hôpitaux en France qui le reçoivent, et de plus en plus. J'ai assisté à Nice à une session, et les gens qui disent « moi j'aimerais bien le voir, moi non, ça me fait peur », tout ça. Quand le cheval arrive, il va toujours chez ceux qui l'ont demandé, là, il ne se trompe pas, il y a une aimantation, la demande, et là, il reste devant la personne. Que cette personne soit en fin de vie, en soins palliatifs, que ce soit un enfant en chimio. Et là, les médecins et les infirmiers qui témoignent sur les sites professionnels, c'est extraordinaire. Là, une chef de service d'un hôpital dit ce à quoi arrive le docteur Payot, nous n'arrivons pas nous-mêmes par rapport à des patients qui sont en soins palliatifs, qui ont cette peur, la souffrance physique et la souffrance morale, il n'y a que le cheval qui arrive à les apaiser. Et souvent, et ils le demandent dans leurs derniers instants, et le cheval est là pour faire la transition. Et donc ce cheval se laisse caresser, il ne bouge pas, et parfois il pose son museau dans les endroits vraiment où sont les foyers de l'infection, les foyers de la maladie. Et quand on écoute Hassan Bouchakour, pas son maître, hein, mais son accompagnateur, hein, qui au départ est un organisateur de spectacle équestre, qui est le descendant de la dernière famille de cavaliers fauconniers en Algérie, et qui achète ce cheval, puisqu'il est beau comme ça, comme poulain, pour vraiment le dresser pour les spectacles équestres. Et là, il n'arrive à rien avec celui-là. C'est-à-dire, impossible de le monter, de le commander, rien. C'est un cheval, il avait été maltraité quand il était poulain, et il est fermé, le chef fermé, et rien à en tirer. Au point qu'il décide de le revendre. Et comme il dit lui-même, au moment où je ne lui ai plus rien demandé, ce cheval s'est mis à tout donner. Et en fait, ça, comment dire, sans employer de mots qui ne soient pas trop d'anthropomorphistes, mais sa mission, c'est de soulager la souffrance, d'aller vers les malades. Et Hassan Bouchakour dit une chose très intéressante, il dit, c'est dans la vie, quand il n'est pas de service, hein, quand il n'est pas en médiation, il est froid comme la mort, Cyril. Il ne supporte pas qu'on le caresse, qu'on le touche, il n'a aucun élan, il n'a rien.
Et, juste quand il est en connexion, en fait.
Ah oui, c'est-à-dire qu'il veut qu'on le laisse tranquille quand il n'est pas au service d'une vraie demande. Et Bouchakour ajoute, ce qui fait que quand il est gentil avec moi dans la vie, je m'inquiète un peu en disant, il faut que je me repose, il faut que j'aille voir un médecin, parce qu'il y a un problème.
Il y a quelque chose.
La gentillesse du cheval est un indicateur un petit peu, un voyant rouge, quoi. Voilà, c'est un exemple spectaculaire d'une véritable intention mise en évidence sur ce cheval et du résultat après. Par exemple, un jour, le cheval arrive dans le couloir et il y a un monsieur assis qui se lève pour venir le caresser. Et là, tout le monde, les infirmiers, les patients, tout le monde éclate en sanglots. Alors, Bouchakour dit, bon, ça se passe quoi ? C'est normal. Il dit, mais ça fait 5 ans qu'il ne s'est pas levé, le gars. Donc, il se passe quelque chose. Vous voyez, c'est pas le cheval qui fait un miracle, mais ça, présent, ce qui émane de lui, réveille chez les êtres humains des choses extrêmes.
Oui, c'est-à-dire que ça réactive quelque chose d'extrêmement profond.
Voilà, et qui fait
probablement
que...
probablement qui met en œuvre un certain nombre
voilà,
de...
Voilà, et puis il y a des dimensions connues et des dimensions inconnues.
Bien sûr.
Ce qui compte, c'est le résultat. Je veux dire, il y a de plus en plus de médecins aujourd'hui qui disent, même quand on ne comprend pas ce que fait un guérisseur, un barreur de feu, tout ça, mais qu'on voit les résultats, nous n'avons pas le droit de priver nos patients ces secours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a dans de plus en plus de services hospitaliers des listes d'astreinte. Où il y a les kinésithérapeutes et il y a les barreurs de feu.
Ah, absolument, et qui ont de plus en plus droit de cité dans les hôpitaux, d'ailleurs,
aujourd'hui. Et sinon, je me rappelle, David Servan-Schreiber disait, en tant que médecin, même si j'ai des doutes sur comment ça marche ou même si je n'y crois pas, je n'ai pas le droit d'en priver mes patients si ça leur fait du bien, parce que ce serait trahir mon serment d'Hippocrate. Donc, il faut vraiment revenir aux fondamentaux. Hein. Et là, oui, il se passe des choses de cet ordre-là avec ce cheval, certainement. Et puis, je donne d'autres exemples. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais j'ai envie d'en parler un où là, vraiment, on est à un niveau de bienveillance qui est très difficile à comprendre. C'est un fait réel que ma que m'a fait vivre un vétérinaire. C'est un couple qui amène un chien dans un état critique, vraiment. Maï, le chien c'est en urgence, en pronostic vital, au point que le vétérinaire tout de suite fait tonie cardiaque, puis anti-infectieuse, tout ça, un traitement de cheval, si je puis dire. Avant de poser la question, qu'est-ce qui lui est arrivé, voilà, il faut le cœur va lâcher, tout part. Bon, vraiment, il faut le. Bon, il réussit, il fait son boulot de véto et le chien passe l'étape. Et là, il dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est quoi ces symptômes? C'est ce truc. Et là, les gens lui disent, écoutez, il y a un an, notre fils est mort de cette maladie-là, les mêmes symptômes. Comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que le chien, et c'est une maladie orpheline, déjà rare chez les humains, un chien... pas statistiquement possible que par hasard il développe ça. Donc,
c'était la date anniversaire.
Mais autant qu'on puisse savoir, les chiens n'ont pas le sens du calendrier. En revanche, le chien a une telle empathie qu'il sait quand son maître souffre, il sait ce qui le fait souffrir. Et là, évidemment, les parents se préparaient à cette échéance de l'anniversaire qui décuplait évidemment la douleur et sans doute les images mentales. Liés à cela. Et ça, ces images mentales reçues par le chien, le biologiste Rupert Sheldrake nous a prouvé que c'est une réalité. Dans ces expériences que vous pouvez voir sur Internet, des protocoles de Sheldrake que j'adore parce qu'ils sont toujours très, très tordus, il prend le truc dans tous les sens pour qu'on ne puisse pas dire c'est du hasard. Il y a deux caméras, l'une au domicile du maître où il y a le chien et l'autre au bureau où travaille le maître. Et donc, caméra qui tourne en continu et avec des time codes. Et au moment où le patron dit à l'employé, vous pouvez rentrer chez vous, le chien immédiatement se réveille, il va se mettre devant la porte. Si le patron dit, non, finalement, j'ai encore un truc à vous donner, le gaz rassied, le chien va se recoucher. Quelle que soit l'heure, c'est-à-dire que là, vous avez des milliers d'heures d'expérience comme ça sur des centaines de chiens, ça marche toujours. C'est-à-dire qu'il y a ce lien si particulier du chien qui a... Parce que le chat, il a son univers. Le chat n'est pas branché de la même manière. Le chien est vraiment à son espace-temps conçu sur l'absence et la présence. Et donc, il est en état d'alerte, semble-t-il. En tout cas, on sait qu'à l'instant précis, au centième de seconde, où l'information... Donc, on est à distance. Donc, qu'est-ce qui peut capter l'explication la plus vraisemblable? C'est cette image mentale du « vous pouvez rentrer chez vous ». Et le gars s'imagine en train d'ouvrir la porte. Et c'est ça que capte le chien, qui reconnaît le lieu. Ça n'est qu'une interprétation, mais franchement, il n'y a pas d'autre. Donc, par défaut... Donc, à partir de ça, on peut peut-être expliquer la réaction de ce chien qui capte cette image mentale chez ses maîtres, qui sent combien ça leur fait mal et qui, semble-t-il, aurait pris sur lui, au sens propre, les symptômes, ce qu'il voit, ce qu'il ressent, comme si ça pouvait libérer...
la souffrance.
Ces êtres humains de leur souffrance. Alors, je me garde de faire trop d'anthropomorphisme, de psychologie, mais là encore, d'autres explications, on n'en a pas.
Oui, mais c'est ça aussi, c'est tout ce que ce livre nous apporte, c'est-à-dire vous nous racontez des histoires, mais vous nous obligez en permanence à activer chez nous quelque chose.
Oui, j'oblige pas, mais j'incite.
Oui, vous incitez fortement en tout cas. Mais d'activer chez nous quelque chose qui fait qu'on se sent pris dans ce besoin de ressentir. C'est-à-dire que c'est un livre expérientiel.
Voilà,
on n'est pas juste dans le mental, on ne peut pas rester dans le mental avec votre livre.
Il y a là, tous les exemples qu'on vous donne là, on peut arriver à quelle conclusion? C'est que la bienveillance, car c'est de ça qu'il s'agit, c'est de vouloir du bien à un patient, à un malade, vouloir soulager la douleur de l'autre en la prenant sur soi. Je pense même, petite parenthèse, à ce chien qui, pendant que son maître a une séance de chimio à 100 km de chez lui la semaine, et il sait très bien les effets secondaires qu'il aura, il n'en a aucun. C'est le chien qui perd ses poils, qui a des nausées, elle est fatiguée, tout ça. Le chien prend à distance tous les effets secondaires normaux d'une chimio. Le maître n'a rien. Et en plus, c'est un problème au poumon. Et malheureusement, là, l'histoire ne se finit pas bien. C'est que ça se finit bien pour l'être humain qui, le problème semble réglé. Il est en vraie rémission. Il rentre chez lui, c'est fini. Il a terminé la chimio et tout. Les marqueurs sont bons. et le chien meurt d'épuisement au niveau des poumons. Mmh. Donc, la conclusion que paraissent nous suggérer tous ces exemples, ce serait que cet instinct de bienveillance ou cette volonté de bienveillance déclenche des pouvoirs qui ne sont pas des super pouvoirs extraordinaires, mais qui sont des choses que nous avons en nous,
oui,
que simplement nous augmentons. Et il y a des cas, je donne aussi l'exemple spectaculaire de ce sous-marin, le Paco Chac, oui. 1988, sous-marin péruvien qui est dans le port de Callao et éperonné par un brise-glace japonais qui et le sous-marin coule par 42 mètres. Mmh. Et en plus, le brise-glace continue son chemin, il ne donne pas l'alerte et tout. Et donc, l'équipage est condamné à mourir noyé à condition parce que l'eau rentre par l'arrière. Et il faut juste fermer un sas. Et donc, le commandant essaie de faire tout de suite. Il est noyé, il meurt tout de suite. Et c'est le commandant en second qui va entreprendre d'essayer de verrouiller ce sas, mais qui est resté en position des verrous. C'est-à-dire qu'il faudrait le soulever, tourner de manière à ce que les tenons qui verrouillent rentrent à l'intérieur dans leur espace pour que ce soit clos. Et il monte le long de cette échelle avec des flots d'eau qui tombent dessus. Tout l'équipage qui, évidemment, espère vivre pour lui, pour qu'il y arrive, il va y arriver. C'est-à-dire qu'il soulève ce volet, il le tourne et il referme. Et il les sauve. Et ensuite, ils vont réussir à remonter à la surface. Sauf que lorsque l'enquête est menée, évidemment, sur le naufrage et que les services de l'US Navy viennent enquêter, ils arrivent à la conclusion que, vu la profondeur à 42 mètres, vu la pression de l'eau, on arrive à 5 tonnes de pression, corrigée par la pression interne, qui fait que ce que cet homme tout seul a soulevé, c'est 4 tonnes 2. Mmh. Là, ok. On peut, voilà, on voit quel est le record du monde de l'haltérophilie. Il est, je crois, de 400 kilos et quelques, si la mémoire est bonne. Sauf que, moi qui cherche toujours une explication cartésienne, rationnelle, si on multiplie, du moins si on divise ces 4-2 par le nombre de personnes de l'équipage, on arrive à peu près à 100 kilos chacun. Si tout le monde a projeté son pouvoir physique dans cet homme-là, peut-être, c'est une hypothèse comme une autre. Mais sinon, on est dans un truc de totalement surnaturel, physiquement impossible. Et qui, alors, quel qu'ait été, bon...
Enfin, vous ne pouvez pas dire ça, vous qui avez écrit le dictionnaire de l'impossible et au-delà de l'impossible, c'est que finalement, il y a un certain nombre de choses qui nous échappent.
Oui, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout de centaines, de milliers d'exemples comme ça, on a du mal, oui, employé, évidemment, parlons pas du mot paranormal, mais même du mot surnaturel. On se rend compte que simplement, il y a autre chose qui peut, dans certaines circonstances, être activée. Et quel que soit, en plus, notre degré de croyance ou pas. Je raconte une histoire qui me tient vraiment à cœur, c'est celle d'Émile Zola à Lourdes. Quand Émile Zola décide d'écrire sur Lourdes, après la bête humaine, il décide donc de faire, selon sa méthode habituelle, c'est-à-dire de très journalistique, d'aller sur place dans le train des pèlerins, et son but, c'est de montrer que Lourdes est une vaste escroquerie de médecins complices de curés pour faire croire qu'il y a des miracles. Donc il a une position là-dessus position de venir au secours des gens qui sont cette illusion, qui sont manipulés, qui sont abusés. Donc voilà son positionnement. Et dans le train, fidèle à sa méthode, il choisit, comme il faisait pour Germinal avec les mineurs, il choisit deux
Marie,
malades.
Quand même. Deux Marie.
Je ne pense pas qu'il ait choisi sur leur nom. Elles n'avaient pas un badge.
Elles s'appelaient quand même Marie.
Je pense que, il n'y a pas de hasard, mais il choisit deux mourantes, deux tuberculoses, vraiment, deux tuberculeuses en fin de vie, dont
le pronostic vital.
Il crache le puits, puis il n'y a qu'à les voir. Mmh. Quoi. Et c'est le sang et tout. En plus, l'une a le visage moitié totalement déformé par un lupus. C'est une plaie vive. Enfin, je ne sais pas sur les détails. Et donc, il pose des questions et ces dames, flattées quoi, que M. Zola s'intéresse à elles, répondent autant qu'elles peuvent entre deux crachats et de sang. Et à l'arrivée, donc, Zola, voilà, note. Et ça va être, c'est les deux personnages, Marie Lenormand et Marie Lebranchu, qu'on va retrouver dans le livre Lourdes, plus tard. Et à l'arrivée en gare de Lourdes, on vient les chercher en lessivière pour les amener aux piscines. Zola, lui, a rendez-vous au bureau médical, bureau des constatations médicales, avec le docteur Boissary, le médecin-chef, qui a accepté d'ouvrir les dossiers en Zola. Et Zola arrive et il leur raconte, il leur dit, oh, c'est épouvantable quand même, cette détresse, ces deux femmes. Et il leur raconte ce que je viens de vous raconter, ces deux femmes. Et il se dit, bon, évidemment, elles vont mourir si elles ne sont pas déjà mortes. Et voilà, un romancier se dit que, bon, tout son seul pouvoir, c'est de les maintenir en vie dans le roman. Et voilà, je leur dédierai son roman. À ce moment-là, toc-toc à la porte, une des maris qui entre, et qui la vit vraiment en moindre, elle est sortie de la piscine, et il n'y a plus de tuberculose, il n'y a rien. Les médecins constatent le truc. Et Zola, et celle en plus qui avait le lupus, et le lupus est en train, la peau se reforme à vue d'œil. Et alors Zola a cette attitude extraordinaire, c'est que le docteur Boissier dit, c'est ça cette mourante dont vous me parliez que c'est... Vous imaginez déjà le hasard, quand même, cette espèce de coup tordu que le destin joue à Zola. Et là, Zola a une réaction extraordinaire. C'est quand le docteur Boissary lui dit, vous acceptez de témoigner sur ce que vous voyez ? Zola dit oui. Et on peut consulter aujourd'hui aux archives de Lourdes, au bureau médical, ce qu'a écrit Zola. Il dit oui, en effet, contre toute raison, on observait sur ce visage un sourd travail de guérison, de reformation des chairs et une disparition de tous les symptômes que j'avais vus quelques heures avant. Donc Zola est le témoin de ce miracle-là. Donc déjà, chapeau Monsieur Zola, parce que évidemment, ils avaient que ce
oui, serait dû... Oui, il aurait pu mettre une stratégie d'évitement en place.
Et puis, il a à peine fini d'écrire son mot que toc-toc à la porte, et c'est la deuxième Marie qui arrive et qui est miraculée pareil. Alors on se dit, attends, c'est juste pas possible, on met ça dans un film, les gens ricanent. Bon. Et Zola repart dans l'état qu'on imagine. Mais bon, il écrit son livre, et dans le livre, bon, il les fait mourir toutes les deux.
Comme elles
rechute,
sont pas exagérées.
Comme ça. Sauf que les deux, eh ben, elles vont lui survivre pendant 20 ans. Puisque là, on est en...
Oui, puis elles ont été attestées. Je crois que c'est des cas 27 et 28.
Ouais, on est en 1896, là, ouais. Et Zola meurt en 1902. Et puis bon, il faut dire tout de suite, après Lourdes, il est happé par l'affaire Dreyfus. Et bon, il est... Il a publié son livre tel qu'il devait être. Évidemment, le docteur Boissary, le médecin-chef, est fou furieux. Il lui dit, mais comment vous publiez la mort alors que vous êtes témoin?
Quelle
Et là, il répond, le personnage appartient à son auteur. Le romancier fait ce qu'il veut. Et il a raison, je ne vais pas lui donner tort là-dessus. Sauf que l'une des maris, qui est, depuis qu'elle est guérie, je veux dire, elle a quatre enfants, elle est vendeuse au bon marché, une vie tout à fait normale. Il y a 35 ans pour l'une et je crois 28 pour l'autre de survie après le miracle. Même 40 ans pour l'une, puisque l'une, elle continuera pendant 40 ans à revenir chaque année s'occuper des malades. Mmh. Et donc l'autre, elle est vendeuse au bon marché et elle fait des conférences. Et sur la conférence, il y a Marie Le Manchu, c'est la grivote héroïne du roman de Monsieur Zola, où elle raconte tout ça. Et Zola, bon, là, ça le gonfle un peu, évidemment, parce que ça ne va pas avec ça. Sa stature, sa pose, à tel point qu'il va lui proposer, gentiment, cette dame qui n'est pas riche, tout ça, si elle ne veut pas aller vivre en Belgique, parce qu'il lui paye le déménagement et il lui loue un appartement à Bruxelles. Il essaie de défausser. Il dit, non, monsieur Zola, vous m'avez déjà tellement donné, en vous intéressant à nous, on vous doit la vie, on ne va pas en plus. Bon, donc ça, c'est raté. Et puis bon...
C'est les retours de bienveillance dont vous parlez
voilà.
aussi.
Alors, l'affaire Dreyfus et puis la mort de Zola... pas reconnu la réhabilitation de Dreyfus. Et à l'enterrement aux obsèques nationales de Zola, il y a les deux maris qui sont là. Et on ne fait pas tellement attention au milieu de la foule des gens, mais elles disent, et ce qu'elles n'arrêteront pas de répéter, si Dieu nous a guéris, c'est que M. Zola nous a choisis. Il s'est intéressé à nous. Donc il a attiré sur...
Ça, c'est, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'intention,
de bienveillance. Alors, il y a une intention bienveillante, comme je vous disais tout à l'heure, par défaut de Zola, en
oui.
disant, elles vont mourir, bon, je leur donne, bon, c'est ce que c'est que la vie d'une créature de roman, même si elle est inspirée de quelqu'un de la réalité, mais au moins, quelque chose demeure de
oui.
leur souffrance,
quelque
de l'émotion.
Quelque chose de vivant, en fait.
Finalement,
Zola leur envoie de la vie, d'une certaine voilà. façon.
Alors,
un message de vie.
Sa contribution, ce qui est très intéressant, c'est de savoir si, et là, bon, il ne m'appartient pas de trouver, d'apporter la réponse, mais savoir justement quelle est la part active de Zola dans l'extraordinaire accélération du processus de guérison chez ces femmes, de réparation des chairs d'une manière qui... en fait, ce qui se passe dans tous les cas étudiés par la médecine à Lourdes, les cas réels vraiment de guérison inexpliquée, c'est un retour
À la normale.
À la constitution, au stade de la constitution embryonnaire, où tout à coup se fabriquent
les anticorps, les
tout. Par exemple, des cas où il n'y a plus d'os du tout, il n'y a plus un osteosarcome. Et là, l'os repousse instantanément. Le nerf optique se régénère. Donc on en arrive à un moment que peut-être les cellules souches que nous avons tous en nous réussissent à fabriquer. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce qui déclenche ça.
Quelle est l'impulsion ?
On sait, ce dont on est sûr, c'est que ce n'est pas l'eau de Lourdes qui n'a absolument aucune propriété. C'en est même suspect. Hein. Elle est tellement neutre, il n'y a pas une eau sur Terre qui soit aussi... Et puis l'autre miracle dont parlait Zola, c'est que lui disait... Le seul vrai miracle de Lourdes, c'est que cette eau n'ait jamais tué personne. Alors qu'à l'époque, on ne la filtrait pas.
Alors, et tout le monde
se baignait. On était au milieu des pansements, le sang, bon, je passe les détails. Donc c'était un bain, un bouillon de culture infâme. Il n'y a jamais eu de victime.
De l'eau
en
de
effet,
Lourdes.
Là, c'est le miracle que Zola a testé en premier. Bon. Donc voilà, quelle part de la bienveillance active de cet homme a pu donner à ces femmes, en plus de leur foi, l'élan qui a aidé à cette guérison.
Oui, on revient finalement à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'on active, on a tous en nous cette ressource et cette source que l'on peut activer et qui va mettre finalement en branle toute une chaîne qui nous échappe, mais qui va créer ces liens
constants. Et comme je
vous
disais tout à l'heure, dans le doute, ne nous en privons pas.
Voilà.
D'envoyer ces pensées de bienveillance, ces actions de bienveillance et ces images mentales de bienveillance. Il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'indésirable. Et vous allez vous-même, quand vous faites ça, et ça m'arrive assez souvent, vous vous sentez...
À se soigner soi-même,
baigné,
d'une certaine façon.
Oui, non, mais même quand vous voulez essayer de faire du bien à quelqu'un, vous sentez en vous-même une espèce de régénération, vous sentez le bien que ça vous fait. Et ça, ne serait-ce que pour cela...
J'espère que Didier Van Kovelaert, que vous avez ressenti le bien que ça m'a fait d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse d'avoir passé ce moment.
Le bien que ça m'a fait, parce que voilà, on est dans un moment de partage, d'ondes qui convergent, avec l'envie de pouvoir avoir un peu plus d'action sur le monde qui nous entoure, sur les êtres que nous aimons ou sur les inconnus à qui on veut du bien aussi. Et si je peux contribuer à apporter ces vitamines ou ces anticorps ou ces envies simplement d'être plus actif que généralement là où l'esprit s'arrête parce qu'il ne croit pas qu'il peut aller plus loin.
Absolument, les frontières.
Donc j'ai eu raison de répondre à votre invitation. Si ça,
en tout cas, ça me fait infiniment plaisir. Et puis on pourrait peut-être boucler ce moment ensemble avec la notion d'auto-bienveillance qui va aussi chercher quelque chose en nous et qui nous permet de...
Je pense que si on n'a pas réglé ce problème avec soi-même, il ne s'agit pas de s'idolâtrer, de se regarder le nombril dans la glace, mais il s'agit simplement d'être en paix avec soi-même, de se pardonner des choses qu'on peut se reprocher.
Se libérer par le pardon.
Oui, et puis se libérer aussi des toxines, du ressentiment, de la haine. On a tous des raisons d'en vouloir à quelqu'un, sauf que si cette personne vous a fait du mal... extérieur, il faut en plus qu'il vous en fasse à l'intérieur,
en permanence,
à travers
le ressentiment,
la haine. Il faut se libérer du mal qu'on vous a fait et peut-être que vous libérerez aussi la personne qui vous a fait du mal.
Donc finalement, tout ça est un message d'amour.
Oui, d'amour et d'intelligence, dont on parlait tout à l'heure, parce que je crois en trois vertus essentielles et aucune des trois ne peut marcher, à mon avis, sans les autres. C'est l'amour, c'est l'intelligence et c'est l'humour. L'humour qui vous permet, justement, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai bien aimé le mot, de dézoomer, c'est-à-dire de... Vous vivez un truc terrible, mais regardez-vous l'extérieur, vous en verrez le décalage, la cocasserie, l'ironie parfois cruelle, le dérisoire, voire le ridicule. Et vous aurez cette espèce de sourire qui, moi, dans des circonstances très difficiles, m'a toujours énormément aidé. C'est-à-dire, c'est un sens de l'autodérision, pas qui abaisse, mais de cette forme de connivence, de complicité.
C'est-à-dire, c'est d'une certaine façon, c'est de remettre dans le vrai de l'humain et de ce que nous sommes profondément, plutôt que de s'acharner à considérer comme tellement important.
Oui, et puis se dire, c'est quoi l'identité ? L'identité, c'est les liens que l'on crée.
Ah, bien sûr.
C'est savoir, tout à coup, on correspond à quelqu'un vous correspond. Et ben voilà, mon identité, c'est celle qui s'est emboîtée comme une pièce de puzzle à travers un amour, à travers une amitié, à travers une simple rencontre, comme ça, le partage de quelque chose. Mmh. Et là, c'est ça l'identité. L'identité, c'est pas d'où on vient, c'est de quoi, c'est quelle couleur on a, c'est pas ce qu'on a dans les valises au départ. Alors quand après, ça se conjugue avec tout le reste, très bien. Soyons fiers de notre histoire, de nos ancêtres, de nos racines, mais comme un élément d'intégration et pas comme un élément de rejet de l'autre ou de suprématie de soi. On a vu et on voit, hélas, toujours où ça mène et dans des impasses sur lesquelles l'humanité n'arrête pas de se cogner la tête, pas les animaux, pas les végétaux.
Oui, mais d'ailleurs,
on n'a pas le temps de parler de la bienveillance des végétaux, mais
finalement, on ne peut exister qu'en étant liés les uns aux autres, comme les arbres qui ne peuvent fonctionner qu'en étant liés les uns aux autres.
Juste un exemple de bienveillance chez les arbres qui est tout simple. Lorsque un arbre ou une plante est attaquée par un prédateur, mettons les chenilles par exemple, qu'elle mange trop de feuilles, le seuil de tolérance est dépassé. À ce moment-là, le végétal fabrique un poison dédié, un poison spécifique pour l'attaquant en question, qui n'est pas le même si c'est une punaise ou une chenille et tout, et en modifiant la composition de ses feuilles par les tanins, et il les empoisonne. Mais dans le même temps où il agit pour lui-même, il envoie un message d'alerte aux autres arbres, aux autres plantes, pas uniquement de son espèce, c'est uniquement un message d'information à base de gaz, donc de composés organiques volatiles, de l'éthylène aussi, un message électromagnétique aussi, et un message à travers les racines et les interfaces avec les filaments de champignons, de manière à ce que l'information chemine par tous les moyens possibles. Or, c'est une dépense énergétique terrible pour l'arbre qui vient déjà
d'être attaqué.
Il a son instinct de survie, ok. Déjà, c'est formidable ce qu'il arrive à faire au niveau de l'intelligence, puisqu'il y a une perception de ce qui se passe, une analyse de la situation et une action comme conclusion de ces faits-là. Donc c'est, comme le dit aujourd'hui, il ne l'a pas toujours dit, mais aujourd'hui, il est revenu là, le grand botaniste Francis Allais, et on ne peut pas appeler ça autrement que de l'intelligence chez les végétaux. Mais dans le même temps, alors qu'il est déjà épuisé par cette...
Il protège les autres.
Il envoie, il se fatigue pour les autres. Si ce n'est pas de la bienveillance, qu'est-ce que c'est? Puisque là, il n'attend rien de l'autre. C'est pas, parfois, on a l'impression que les arbres échangent des nutriments. Le bouleau, par exemple, l'Université de Vancouver a montré les liens entre un bouleau et un pin Douglas. Et les échanges sont différents. Pendant l'hiver, l'arbre qui a perdu ses feuilles, le bouleau est plus fragile que l'autre. Et le pin est plus en danger l'été que les araignées rouges et tout. Donc là, l'échange se fait dans... Donc c'est un peu gagnant-gagnant, ok. Mais dans l'exemple que je vous ai donné sur l'information...
Oui, il n'a aucun intérêt personnel pour dire les choses comme ça.
Il s'est déjà sauvé.
Oui, c'est ça.
Donc c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel, qui est une intention efficace.
De bénévolence.
Voilà.
De vouloir du bien.
De vouloir du bien, donc. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais dans le livre, on découvre que déjà, au temps des bactéries, ça existe.
Oui. Il faut lire absolument ce livre puissant et d'une force inouïe. Et une fois encore, vous venez nous toucher au plus intime de nous-mêmes. Et on ressort grandi, on ressort beaucoup plus vivant une fois qu'on a lu ce livre-là. Donc, merci infiniment pour ça. On arrive à la fin de l'émission, à ce moment de Up to Read, où vous avez choisi deux livres. J'ai choisi deux livres qu'on va présenter au public. Donc, vous avez choisi un premier livre...
Alors, j'ai choisi un grand livre d'un grand auteur qui n'est plus, et puis un premier livre d'une jeune auteure qui a toute la vie devant elle. On va commencer par l'ancien, qui a été mon ami pendant 30 ans, Jean-Marie Pelt, un des plus grands botanistes du monde, qui m'a appris, et sur le terrain, vraiment, en plus, l'intelligence des arbres, la communication entre eux et tout, et les langages secrets de la nature, chez Fayard et en poche. Est un livre extraordinaire qui a vraiment changé, en tout cas affiné ma perception de tout ce que l'on vient de dire aujourd'hui. Et puis Jean-Marie Pelt était un conteur extraordinaire qui savait faire sentir de manière totalement familière ces pouvoirs extraordinaires des végétaux, ces rapports entre les insectes, ces rapports d'intelligence, de ruse, parfois terrible, et puis de bienveillance. Voilà, la voix de Jean-Marie Pelt nous manque cruellement. Ses écrits sont là, heureusement, pour ça il ne faut pas cesser de le lire, parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes neurobiologistes, végétaux, toutes ces nouvelles disciplines sont les enfants et les petits-enfants de Jean-Marie Pelt. Il est beaucoup plus simple aujourd'hui pour eux de parler qu'à l'époque de Pelt, où il y avait une censure terrible, où l'intelligence végétale, c'était du paranormal, c'était de la connerie. Donc lui, il fallait toute sa bonhomie tranquille et sa force de pénétration des consciences par la douceur du récit, de l'évocation et de la compétence. Et voilà, donc un grand salut à Jean-Marie, là où il se trouve. Et puis Julie Félix, un premier livre chez Albin Michel qui s'appelle « L'amour qui pique les yeux ».
Quel beau titre !
Et c'est l'histoire du lien entre cette jeune femme et son frère qui cumule handicap physique et moteur d'une maladie rare qui fait qu'il est... les muscles ne portent absolument pas, donc il est immobile et impossible de s'exprimer par les moyens normaux. Et c'est un être humain extraordinaire qui a dès le début créé ce lien avec lui en partant de l'idée de la culpabilisation. Au départ, elle se dit que c'est joli comme elle le raconte, que en fait elle a passé trop de temps dans le ventre de sa mère, elle était après terre, mais en fait elle a pris toutes les réserves, tout ça, qui fait qu'après son frère, bon, il n'y a plus assez pour lui. Elle s'était raconté une histoire comme ça qui fait qu'elle voulait, après, une fois née, compenser tout ça. Donc il y a énormément de sensibilité, énormément d'humour, de force d'enfance et de juvénilité mûre. C'est-à-dire, ce qui me touche beaucoup, c'est pas la maturité de l'expérience, c'est la précocité des sentiments, de la compréhension des choses et de l'action qu'on peut avoir sur la société quand on a charge d'âme et de corps, hein, ce lien avec le frère. Et c'est un livre qui est sur un sujet pareil. J'ai rarement lu quelque chose, le mot peut paraître dévalorisant, mais quelque chose d'aussi rafraîchissant. C'est-à-dire qu'elle nous... Oui, on s'imagine à sa place et on ferait pareil. Et les moments de bonheur paradoxaux dans une situation aussi dramatique, elle nous offre ça comme un superbe cadeau. Et c'est très bien écrit et c'est une vraie plume d'avenir.
Merci beaucoup. Et ça me donne la possibilité de proposer les deux livres que j'ai choisis et qui parlent finalement un peu de la même chose, en tout cas en termes de bienveillance et pour faire le lien avec l'amour qui pique les yeux, ce livre qui s'appelle « Mon père » de Grégoire Delacour, qui est un livre évidemment sur une histoire tragique, hein, puisque là on vient de voir le procès du père Pena, et donc c'est toutes ces histoires absolument abominables de pédophilie au cœur même de l'Église, et de cette confiance que les enfants peuvent faire à ces hommes, des personnes de confiance, pour reprendre le titre de votre dernier livre. Et en même temps, Grégoire Delacour a cette espèce de génie pour raconter cette histoire de son fils avec des mots extrêmement précis. Les mots sont ciselés et il nous fait rentrer au cœur de sa propre vulnérabilité, de sa propre humanité, de sa propre douleur, mais de toute la bienveillance qu'il peut ressentir dans la relation avec son fils, mais aussi finalement dans la relation avec cet homme qui s'est comporté de façon épouvantable avec ce fils. Et c'est une vraie leçon de vie que nous propose Grégoire Delacour pour traiter un sujet mais tellement difficile, tellement compliqué. Et je ne dirais pas, comme vous avez conclu pour L'amour qui pique les yeux, que c'est rafraîchissant, mais là encore, ça nous apporte au creux de nous-mêmes une sensation qu'on peut rester bienveillant envers et malgré tout.
Et reprendre le pouvoir sur l'événement, aussi atroce soit-il.
Et pas uniquement de survivre, ça nous permet de vivre et que ça a permis aussi à ce père de renforcer les liens avec son fils. Et c'est un peu ce qui se joue aussi dans l'autre livre de Delphine de Vigan, dans ce livre sur les loyautés, avec un terme très fort, bien évidemment, où là, il s'agit d'un jeune garçon de 12 ans qui vit avec des parents extrêmement maltraitants psychologiquement, des parents séparés, et il se retrouve pris dans un conflit de loyauté. C'est lui qui devient l'adulte en regard de ses parents, et la maîtresse ressent qu'il se passe quelque chose, sans pouvoir attraper. Et cet enfant, il va finir par boire, donc être dans un état de souffrance terrible, mais pour essayer d'aller chercher des ressources pour continuer à protéger sa famille. Donc il y a de la loyauté qui s'insinue comme ça dans tous les interstices, des relations humaines qui se jouent entre cette institutrice et cet enfant, entre cet enfant et son père, cet enfant et sa mère. Et on sent que l'institutrice, elle va pouvoir attraper quelque chose, mais que pourra-t-elle attraper, puisque ça fait aussi écho à sa propre histoire. Donc là encore, la bienveillance de cette maîtresse va permettre, ou pas, sans vouloir spolier ou dévoiler, pour le dire en français, l'histoire de ce livre, la possibilité pour réinsuffler à cet enfant la capacité à vivre. Donc voilà deux livres que je vous conseille beaucoup. Vous les avez lus ?
Non, mais vous m'avez donné envie en plus. Merci.
Superbe. Merci beaucoup. Donc nous arrivons à la fin de l'émission. Un immense merci d'avoir eu la bienveillance de venir jusqu'à moi, jusqu'à nous. Et puis je voudrais juste terminer pour vous dire que dans mon alliance, j'ai un mari italien et il y a écrit Ti voglio bene. Donc j'ai une alliance de bienveillance. Merci beaucoup à vous, merci à vous d'avoir été là et merci à chacun d'avoir suivi cette émission. Et on se retrouve dans un mois avec Jean-Victor Blanc et son livre très différent mais très rafraîchissant sur les pathologies mentales à travers le prisme des stars d'aujourd'hui qui s'appelle Pop et Psy. Donc c'est un livre qui se lit vraiment comme une histoire. Donc merci beaucoup et je vous aime, je crois.
Merci de cette bienveillance.
Eh bien, merci à tous d'avoir été là, présents, captivés par la façon dont Didier Van Coverlaert raconte à la fois son histoire et l'histoire de la vie. C'est un immense conteur. Et là, il nous raconte des histoires à la fois tellement extraordinaire et des histoires de bienveillance infinie où finalement le pouvoir de la bienveillance va bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, de ce qu'on pourrait croire, et nous demande d'aller derrière le rideau et de faire fi de toute notre rationalité, toute notre compréhension logique des choses pour se laisser emporter par ce courant de la bienveillance qui peut tant de choses. Finalement, Didier Van Coverlaert est un guerrier pacifique et merci beaucoup à lui d'avoir écrit ce livre qu'il faut absolument lire, La bienveillance est une arme absolue, qui a été édité très récemment aux éditions de l'Observatoire.